9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Pascal Clark.
Au départ, l'exposition prévue au Centre Pompidou à Paris devait servir d'avant-goût à l'empaquetage de l'Arc de Triomphe. Et puis, le coronavirus s'est invité dans nos vies, retardant l'exposition et l'inauguration de l'expo consacrée à l'empaquetage en 85 du plus ancien des ponts parisiens, le Pont Neuf. Et puis surtout, Christo Vladimirov Djakvachev, plus connu sous le nom de Christo, est mort le 31 mai à New York dans son sommeil. Du coup, quand Beaubourg a rouvert le 1er juillet, l'exposition est devenue hommage. Elle porte le nom de Christo et Jeanne-Claude, car ces deux-là se présentaient comme une seule entité qui n'a jamais été vraiment respectée, ne disait-on pas seulement Christo. Ça en fait des histoires. Bonjour Sophie Duplex.
Bonjour.
Vous êtes la commissaire de cette exposition hommage en cours à Beaubourg jusqu'au 19 octobre, Christo et Jeanne-Claude, Paris. Vous aviez préparé l'épopée de l'empaquetage du Pont Neuf en 85 avec Christo lui-même.
Alors toute cette exposition qui est d'ailleurs en deux parties, hein, il n'y a pas que l'épopée de l'empaquetage du Pont Neuf.
C'est l'essentiel quand même.
Oui. C'est l'essentiel bien sûr, et puis il y a une première partie aussi plus historique. Donc toute cette exposition, elle a été préparée en effet avec Christo pendant à peu près 3 ans. Donc on avait vu ensemble toutes les étapes de la présentation de l'exposition.
De visu ou par téléphone parce qu'il habitait New York?
Alors il habitait New York, je suis allée le voir à New York. Il venait aussi assez souvent à Paris, d'autant plus que le projet de l'Arc de Triomphe se précisait, donc ça lui donnait des raisons supplémentaires de venir. Et je l'ai suivi aussi sur ses lieux de travail, comme à Londres, quand il a fait une exposition à la Serpentine, ou encore à Marrakech, où il avait une exposition. À chaque fois, je venais avec mon plan et on avançait sur l'exposition. Et il me laissait toujours un petit moment pour qu'on puisse progresser sur ce projet qui lui tenait vraiment à cœur.
Mmh, du coup, quand vous avez appris la mort de Christo fin mai... Qu'avez-vous pensé ?
Alors, la mort de Christo, bien sûr, ça c'était un grand choc. On savait qu'il avait des petits problèmes de santé, mais on pensait que tout ça allait s'arranger, bien évidemment. Et puis il est décédé brutalement. Donc, il n'aura pas vu l'exposition. On lui aura montré quand même avant le confinement, on lui aura fait une petite visite par téléphone portable interposé.
Par WhatsApp ou...
Juste le téléphone. Ouais. On s'est baladé dans l'expo avec le téléphone. Et puis voilà, il disait « Ah, oh, ça lui plaisait bien ». Voilà, et je crois qu'on avait bien respecté tout ce qu'il voulait.
Bonjour Diane Chenouda.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Vous êtes la spécialiste des expositions, notamment la rédaction d'Europe 1. Que voit-on dans ce qui est devenu une exposition hommage à Christo et Jeanne-Claude à Paris ?
Bah écoutez, cette exposition, moi je la trouve très intéressante parce qu'on comprend sa démarche. Pourquoi ? À un moment donné, cet homme a voulu tout empaqueter, s'est mis à tout emballer. Les objets du quotidien, on le voit dans l'expo, incroyable. Parfois, on les identifie pas. Hein. C'est des objets. Alors, ça peut être un landau, ça peut être un jouet de bois, un cheval de bois. Ça peut même être. Alors là, on le voit, le portrait de sa femme empaqueté dans du papier transparent.
Ouais. Puis il y a des vitrines aussi. Il y a l'époque où les vitrines sont avec.
Oui. Les vitrines. Devant, ouais. Voilà, exactement. Il y a aussi les fameux barils. Hein. Il bloque toute une rue, la rue Visconti, qui va s'appeler le rideau de fer, hein, parce que c'est quand même, en référence à sa fuite de Bulgarie, hein, puisqu'il passe à l'ouest. Et donc, c'est ce jeune Christo qui arrive à Paris, hein, ce sont les années parisiennes de Christo. Il rencontre sa femme, Jeanne-Claude.
On va décrire tout ça.
Ouais. C'est vraiment un couple indissociable. Elle le soutient complètement dans sa démarche. Pourquoi est-ce qu'il empaquette pourquoi est-ce qu'il veut tout emballer ? Même des meubles. Des meubles un peu précieux, vous voyez, bourgeois, etc. Donc, il détourne ces meubles de la bourgeoisie. Ensuite, on voit évidemment l'empaquetage du Pont Neuf. Alors, c'est peut-être pour mieux cacher, pour mieux révéler. Il utilise la corde comme un sort de crayon, vous voyez, pour mieux souligner les formes, pour mieux révéler les contours. D'ailleurs, on le voit avec le Pont Neuf, quand il emballe le Pont Neuf, mais c'est une véritable œuvre d'art. C'est-à-dire qu'il transforme, hein, l'art, c'est de la transformation. Donc,
il y a les plans, il y a les travaux préparatoires.
Ah, c'est fascinant.
On voit la démarche.
On voit complètement la démarche. Il y a les études préparatoires, les dessins qui sont merveilleux, à la craie, au fusain. Quand on aime vraiment le dessin, la peinture, on est fasciné parce que il y a des collages de tissus, hein, pour évidemment en référence à la fameuse toile qui va recouvrir le Pont Neuf. Et puis il y a la maquette qu'il va utiliser pour convaincre les Parisiens, parce que ce qui est assez fou, c'est que l'œuvre de Christ Cristo, c'est aussi une campagne de communication. Si vous voulez, le Pont Neuf, c'est 15 ans, c'est 15 jours d'empaquetage et 10 ans de préparation.
C'est ça qui est incroyable, et c'était la même chose pour tous les projets de Cristo et Jeanne-Claude. Mmh. Évidemment, vous restez là toute l'émission, Diane Chiouda, on va écouter des sons tout à l'heure, mais juste Sophie Duplex, ce sont des démarches, tout ça, qui ne durent pas longtemps, enfin qui durent longtemps, énormément de temps dans la préparation, mais dans le visuel, peu de temps, 15 jours pour le Pont Neuf. Est-ce que, du coup, ces travaux éphémères sont faits pour être rappelés, ce qui est le principe de votre exposition? Est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction là?
Moi, je crois qu'il n'y a pas de contradiction. L'œuvre, comme vous le disiez, ce n'est pas seulement les 15 jours de présentation temporaire. Hein. Temporaire, disait Cristo, et pas éphémère, parce qu'éphémère, ça le renvoyait à des choses de l'art contemporain auxquelles il ne voulait pas forcément être associé.
Ouais. La nuance est artistique ?
La nuance, oui, est artistique.
Parce que je ne la vois pas bien, là, comme ça, temporaire, éphémère.
Éphémère, ça peut renvoyer à d'autres courants, du land art, d'artistes qui sont intervenus à l'extérieur, dans la nature. Et lui, il était plus pragmatique, je dirais, dans son appellation, c'était temporaire. Donc c'est cette œuvre temporaire qui dure en général 15 jours dans sa présentation au public, effectivement est précédée de cette très longue période de gestation qui consiste à convaincre les politiques, convaincre les riverains, faire une campagne énorme de communication et puis lever les fonds pour autofinancer le projet. Ben on ne le dira jamais assez. Ce sont des projets entièrement autofinanciers. Et ça, je le rappelle, je le souligne et je le dis à
ni
tous
sponsor,
les auditeurs.
Ni sponsor, ni mécène.
Ni sponsor, ni mécène. C'est l'argent que Cristo et Jeanne-Claude réussissaient à lever en faisant
en
la chose suivante,
œuvres, oui.
En vendant les œuvres de Cristo. Donc toutes ces études préparatoires que vous évoquiez tout à l'heure, magnifiques, que Cristo faisait dès le début du projet.
Restez là, je vous interromps, excusez-moi, parce qu'on a beaucoup de temps, mais dans un petit moment seulement. Sophie Duplex et puis Diane Chiouda est là aussi pour parler de Cristo et de sa femme, parce que c'était une entité et on va raconter leur couple là tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Pascal Clark.
Certains êtres, il faut croire, sont destinés à se rencontrer. Cristo et Jeanne-Claude, figurez-vous, étaient nés le même jour, le 13 juin 1935. Lui en Bulgarie, lui, elle, oui, elle à Casablanca. Rien n'indiquait qu'ils se croiseraient un jour, surtout pas leur milieu social, Sophie Duplex.
Effectivement, enfin, ils venaient tous les deux, je dirais, d'une bonne famille. Mais effectivement, quand Cristo quitte la Bulgarie et pour arriver à Paris au bout de quelques pérégrinations en 1958, en mars, c'est vraiment un artiste sans le sou. Et il gagne sa vie en faisant des portraits. Des portraits de dames de la haute société. Il a quelques relations, notamment à travers des coiffeurs. Hein, et à travers la haute coiffure, il va rencontrer un certain nombre de clientes qui vont donc lui permettre d'avoir des revenus.
Et notamment Jacques de Sange.
Et notamment Jacques de Sange.
Qui lui commande...
Et René Bourgeois et Jacques de Sange, qui étaient les deux coiffeurs. Et à travers eux, il va rencontrer donc la mère de Jeanne-Claude.
Alors Jeanne-Claude, grande famille, Jeanne-Claude Denat de Guibon, c'est ça?
Voilà. Donc Madame de Guibon, sa mère, donc, qui va se faire portraiturer par Cristo, et la femme du général de Guibon, un grand général qui a œuvré auprès de Gaulle pour la libération. Et donc, c'est un homme très influent. Donc, elle, c'est la comtesse de Guibon. Donc, une famille très riche. Et ils ont notamment une fille, Jeanne-Claude. Et Jeanne-Claude, donc, Cristo va la rencontrer à l'occasion d'une visite pour faire le portrait de Madame de Guibon.
Coup de foudre ?
Alors, pas tout à fait coup de foudre, on ne sait pas trop, mais il faudra quand même attendre quelques mois pour qu'ils réellement ils soient ensemble. Il y a une jolie anecdote, est-ce que j'aurai le temps de la raconter ?
Allez-y.
Qui dit que il a une petite affaire avec sa sœur, hein. Il faut bien le dire avant.
Avec la sœur de Jeanne-Claude.
Ouais. Voilà.
Ah,
voilà.
Oui. J'ignorais.
Mais c'est dit, c'est officiel, hein, je peux le dire, je ne trahis personne. Et après, donc, il est quand même très amoureux de Jeanne-Claude. Et à un
qui est marié.
Qui va se marier. Alors,
qui va se marier.
Non, mais c'est l'amour contrarié au début.
Qui va se marier. Et donc, on est à l'été 59 et ils font un petit trajet en voiture. Et puis, là, ils s'embrassent. Ils ne tiennent plus, ils s'embrassent. Et, paraît-il, l'un d'entre eux se casse une dent. Il faut dire que...
Ah mais lequel, on ne sait pas.
Vraiment l'amour fou. Je pense que c'est Christo.
Oui, en effet, là, il y avait la passion quand même. Hein.
Et donc, il y avait de la passion. Ah, oui. Et puis après, effectivement, Jeanne-Claude était promise à un monsieur très riche, hein, vu sa famille. Et puis, elle se mariera et ça durera très peu de temps.
Trois semaines.
Et voilà, elle demandera le divorce au bout de 3 semaines et elle restera avec Christo donc toute sa vie à vivre cet amour absolument passionné qui les conduira
jusqu'au bout. C'est ça qui est fou, jusqu'à la mort,
inséparable, avec voilà, une fusion totale. Là, on est obligé de s'interrompre au moins pour le suspense parce que cette histoire là est incroyable et elle va continuer à être incroyable. On va continuer à nous-mêmes à les raconter, eux deux, Christo et Jeanne-Claude, grâce notamment à Sophie Duplex qui est la commissaire de l'expo au Centre Georges Pompidou à Paris. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Pascal Clark.
Nous sommes symboliquement en compagnie de Christo et de Jeanne-Claude. Ça y est, ils se sont embrassés, ils vont se marier. Commence alors une fusion totale. Je crois que c'est plutôt elle qui disait « on ne fait qu'un », c'est ça ?
Oui, ils ne font qu'un, et d'ailleurs ils font toujours qu'un, puisque l'exposition s'appelle Christo et Jeanne-Claude, même alors que Jeanne-Claude était décédée depuis 2009. Leur
Exactement.
Nom était accolé définitivement dans une œuvre commune.
Alors c'était leur souhait, c'était un état de fait, et pourtant Sophie Duplex, vous qui êtes la commissaire de l'exposition à Georges Pompidou, médiatiquement, on a retenu que le nom de Christo. On parle communément de Christo. Pourquoi ? C'est la misogynie habituelle ?
Alors, c'est vrai que Jeanne-Claude, quand on travaille sur Christo et Jeanne-Claude, on se rend bien compte que Jeanne-Claude, elle est présente dès le début, elle est présente dès le projet qu'on évoquait tout à l'heure, la rue Visconti, où Christo et Jeanne-Claude barrent cette petite rue de Paris avec des barils. Donc, elle est là déjà présente. Elle sera présente dans tous les projets qu'ils réalisent dans l'espace urbain. Mais effectivement, son nom est vraiment associé officiellement à Sud Christo au milieu des années 90. Donc c'est peut-être pour ça que les gens ont retenu le nom de Christo. Et c'est vrai qu'au moment du Pont Neuf, c'est plutôt le nom de Christo qui est mis en avant. Alors que de toute évidence, quand on voit l'exposition et qu'on voit comment ça s'est passé, on comprend le poids qu'elle a eu. Enfin, ils ont vraiment été à parts égales.
Elle est tout le temps là.
Elle est tout le temps là. Non seulement elle l'épaule, elle n'est pas à côté de lui, elle est avec, ensemble, ils agissent ensemble.
Elle le soutient totalement. On le voit dans le film qu'il y a à voir dans l'expo. Vraiment, c'est un film qu'il faut absolument voir pour comprendre vraiment Christo et Jeanne-Claude.
Vous savez qu'on a un extrait, Diane.
Oui, absolument.
Où on entend la voix de Jeanne-Claude. On lui rend un petit peu hommage aussi ce matin, même si effectivement, comme vous le disiez, elle est morte en 2009, je crois.
Oui.
Parce que, bon, médiatiquement, elle est un peu passée à l'as.
Ouais.
Donc le film « Christo in Paris » des frères
Meisels.
Voilà, je ne savais pas prononcer, merci.
J'ai dû beaucoup m'entraîner.
C'est ça, on peut voir ce film dans l'exposition Pompidou. Alors, écoutez cet extrait, instruction sur l'installation du Pont Neuf.
Est-ce que c'est serré ? Est-ce qu'il est tiré ?
Il faut tirer le toit.
Oui, c'est déjà trop tiré, ça
c'est. Non, il faut le tirer, il ne faut pas être comme ça, il faut tirer vertical, tu ne comprends pas.
Mais cette couture, elle ne devrait pas être sous l'eau?
Non, il faut être vertical, chérie. Ok, je te laisse parler toi, tu sais mieux
tout. Non,
okay.
Je parle de la couture du tissu. Qui
cette
est là
couture,
en
tu
bas.
Sais, il faut être. Tu vas là où est l'autre couture?
Oh, plus haut?
Oh, beaucoup plus haut.
Ah, ok, ok. Moi, je croyais que cette
Mais
couture, ça
tout.
Montrait l'eau.
Il faut tirer, il faut tirer.
C'est pas le niveau de l'eau, ça?
Non, Jean.
Ok. Okay. Tu mélanges tout, mon chéri.
Tu mélanges tout, mon chéri.
On sent la fusion qu'il y a entre
ben
les
ouais,
deux.
Complètement. Hein justement, Jeanne-Claude est morte en 2009. Comment Christo a-t-il trouvé la force de continuer ? Parce qu'on se dit qu'il était amputé d'une partie de lui-même, Sophie Duplex.
Alors effectivement, alors c'était étonnant d'entendre toujours Christo parler de Jeanne-Claude comme si elle était là, si bien que quand l'exposition a ouvert, beaucoup de gens me demandaient « Et Jeanne-Claude, où est-elle » pensant qu'elle était toujours vivante.
Il continue d'en parler au présent.
Il continuait d'en parler au présent. Donc ça, c'était déjà quelque chose d'assez extraordinaire. Mais après, il a poursuivi ses projets. Christo n'était jamais tout seul. Christo et Jeanne-Claude n'étaient jamais tout seuls. Et il a continué. Il était toujours entouré d'une équipe très rapprochée. Notamment, deux de ses neveux travaillent avec lui en permanence. un qui est le neveu de Jeanne-Claude, l'autre de Christo. Et il a aussi une assistante, quelqu'un qui s'occupe de ses réserves, et puis son photographe attitré, qui est une personne fondamentale aussi, parce qu'il est souvent impliqué dans toute la question du choix du tissu.
Il y a une petite troupe quand même.
Il y a vraiment une petite troupe, et c'était même difficile de voir Christo complètement tout seul. Il était toujours très entouré. Et alors il a continué donc avec cette équipe hein, après le décès de Jeanne-Claude, et notamment son neveu Vladimir a été très actif donc dans ses projets, notamment celui qui a eu lieu en 2016 en Italie, dans le nord de l'Italie, Floating Piers, qui est un projet magnifique avec des ponts qui relie l'île au rivage et qui a d'ailleurs a fait l'objet d'un film qui a été diffusé à la télévision il y a pas très longtemps, donc je pense beaucoup d'auditeurs ont pu voir.
Oui, on a l'image en tête probablement. On revient donc à ce qui constitue l'essentiel de cette exposition en ce moment au Centre Beaubourg à Paris, c'est l'empaquetage en 85 du Pont Neuf. Diane ouais. Chénouda, il a fallu, et ça a été comme ça pour toutes les opérations, il a fallu convaincre pendant des années, voire des décennies. Comment ça
Absolument.
S'est passé pour le Pont Neuf alors ?
Ils ont mis 10 ans à convaincre, quasiment. Ils ont dû convaincre la population, les Parisiens, donc avec cette maquette magnifique qu'on voit dans l'expo, parce qu'évidemment les gens se disent mais ça, c'est quoi cette histoire ? Mais ça va coûter combien ? C'est avec notre argent ? Emballer un pont, mais pourquoi le Pont Neuf ? Le Pont Neuf, nous on l'aime, on l'aime comme ça, avec ses vieilles pierres. Vous voyez, il y a ce côté un peu conservateur, hein. À l'époque en plus, on est quand même dans les années 70-80, voilà, et donc déjà, il faut convaincre, ça fait partie de l'œuvre, cette campagne communication fait partie de l'œuvre, on le voit très bien dans le film, et ils doivent convaincre également les politiques.
Oui.
Les politiques, et c'est Jacques Chirac évidemment qui est maire de Paris à cette époque-là, et il se trouve que le père de Jeanne-Claude, qui est d'ailleurs son père adoptif, mais enfin bon, ce monsieur, ce général, c'est un proche des milieux du général de Gaulle, et donc il introduit le couple Christo-Jeanne-Claude à Jacques Chirac, et donc ils vont finalement se rencontrer, voilà, c'est très important, il doit séduire Jacques Chirac, hein, ils vont rencontrer le maire de Paris dans ses bureaux à l'Hôtel de Ville un beau jour de 1982.
Qu'est-ce que ça coûte à la ville de Paris ?
Monsieur le maire, rien du tout.
Tout l'argent va venir de la vente de médecins et collages.
Moi, je vais vous dire, monsieur Christo, depuis qu'on a parlé de ce projet, vous ne soupçonnez pas le nombre de lettres que j'ai reçues. Pour me dire que ça va coûter très cher, il vaut mieux construire une crèche supplémentaire.
Alors, Sophie Duplex, il paraît que, comme souvent, j'ai l'impression, Jacques Chirac lui-même était pour, mais il sentait que son électorat n'allait pas le suivre. C'est ça l'histoire ?
Oui, c'est vraiment ça l'histoire. Et d'ailleurs, il le dit assez franchement. Il dit que lui, sur le principe, c'est bon, mais rendez-vous, dit-il à Christo et Jeanne-Claude, rendez-vous dans un an après les élections municipales. Donc, il a effectivement très peur pour son électorat.
Mmh. On a le son, d'ailleurs. On comprend bien. Qu'il est favorable, en fait.
Bah, on l'écoute, si voilà. Vous voulez, on l'écoute, il suffit de le dire.
Voilà.
Moi, je suis favorable au projet. J'ai vu les photos, j'ai vu la maquette, etc. Je suis favorable, personnellement, au projet. Mais il ne faut pas dire que la décision est prise, parce qu'à ce moment-là, nous la rendrons difficile. Il ne faut pas que, politiquement, on prenne cette affaire comme un cheval de bataille. Quand les élections auront eu lieu, et si, comme je le pense, la municipalité ne change pas, nous pourrons prendre des initiatives sans qu'elles fassent l'objet d'autre chose que de quelques campagnes d'ordre purement culturel et qui n'auront à ce moment-là aucune importance.
Ça, c'est formidable.
On peut empaqueter des ponts, on peut empaqueter ses propos aussi. Hein.
en rapidement... tout cas, il a réussi à emballer Chirac, on va dire, entre guillemets.
Pour le moment. Hein.
Oui. Voilà.
Sophie Duplex, rapidement, il faut quand même préciser que les deux tiers des projets du couple n'ont pas abouti. C'est vrai,
c'est ça, à peu près. Il y en a 23 qui ont abouti et 47 qui n'ont pas abouti. C'est dans
et eux qui vivaient à New York, ils n'ont jamais envisagé d'empaqueter les buildings, je ne sais pas, l'Empire State, ou voir les deux tours jumelles quand elles étaient encore debout, non ?
Ils ont eu des projets d'empaquetage de gratte-ciel. Ça, ils en ont eu assez tôt, donc après leur arrivée à New York. Mais effectivement, ce sont des choses qui n'ont pas abouti. Ce qui a abouti, c'est le projet qui s'appelait The Gates dans Central Park, qui étaient ces portiques orange, de tissu orange, qui volaient au vent, donc qui avaient été installés dans Central Park en 2005. Et là encore, ça avait pris des années pour exister.
On parle de Christo et de Jeanne-Claude ce matin en compagnie de Sophie Duplex et de Diane Chendouda. Ne quittez pas, on va faire un petit détour par YouTube. Faut tout.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Culture Média et les indispensables. Tous les mercredis, Thibault Lombert explore YouTube. Bonjour Thibault.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous avez un coup de cœur pour Fulloscopie. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, c'est la chaîne étonnante d'un chercheur. Il s'appelle Mehdi Moussaïd, français expatrié à Berlin. Et depuis 13 ans, il étudie les foules, ou plutôt la manière dont se comportent les foules, d'où le terme qu'il a inventé, Fulloscopie. Ça paraît insolite, mais c'est un sujet très sérieux auquel se mêlent les mathématiques, la psychologie ou encore la biologie. Lorsqu'un groupe de plusieurs centaines ou milliers de personnes se rassemble au même endroit, il n'y a plus de place pour le hasard, tous ces corps obéissent à des lois physiques. Alors dans une vidéo, ce chercheur nous donne notamment quelques réflexes de survie pendant un mouvement de foule. Vous les connaissez Pascal ? Non ? D'abord, essayer de garder l'équilibre, protéger sa cage thoracique, s'éloigner le plus possible des murs et surtout, ne pas tenter de résister, se laisser porter si la vague humaine est trop forte.
Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps.
Elle connaît bien les airs, Edith Piaf, quand même. Hein.
Très très bien. Ouais.
Sur Fulloscopie, on ne parle pas que des déplacements de foule, mais aussi de leur opinion, comment une rumeur se répand et se déforme sur les réseaux sociaux, par exemple.
Oui, et dernièrement, le chercheur nous expliquait comment se propage la panique. Il s'est appuyé sur la pénurie de papier toilette qui a sévi, rappelez-vous, dans les supermarchés au début du confinement. On apprend que si plus de 5% des clients se mettent à acheter anormalement du PQ, alors les autres iront en acheter plus tôt que prévu et c'est le drame. Écoutez.
Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a quelques individus qui ont très ponctuellement vidé les rayons, ce qui a conduit certains autres à faire des petits stocks de 3 rouleaux supplémentaires à la maison, par précaution. Mais 3 rouleaux multipliés par beaucoup de monde, ça fait une grosse quantité. Et donc le magasin prend du temps pour s'en remettre. Et comme les rayons restent vides, ça augmente encore le nombre de gens qui stockent, et on rentre dans un cercle vicieux. Alors il est intéressant ce seuil de 5% parce qu'on le retrouve souvent dans la littérature scientifique. L'exemple le plus frappant, c'est celui des bancs de poissons, où les biologistes ont montré que dans les grands groupes, il suffit de 5% d'individus qui commencent à nager dans une certaine direction pour entraîner tout le groupe dans la même direction par effet de contagion.
Ça fait 2 ans que Mehdi Moussaïd, Thibault, se sert de YouTube pour vulgariser ses recherches.
Oui, je lui ai posé la question, qu'est-ce que la plateforme et ce public lui apportent dans son travail ? Écoutez sa réponse.
Parfois, j'aime bien traiter aussi des thèmes que je maîtrise pas trop. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur le fait qu'une foule d'individus ont tendance à chanter juste, ou en tout cas plus juste que n'importe quel individu pris au hasard. Pour le faire simplement, il y a un des mécanismes qui est en jeu, qui est simplement un effet d'illusion acoustique en fait. C'est-à-dire que l'ensemble des fausses notes va se mélanger pour donner quelque chose de juste. Et c'est pas du tout un thème que j'avais traité dans mes recherches, je l'avais un petit peu au fond de mon cerveau en me disant « tiens, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à jouer ». Et donc je me suis servi en fait de cette vidéo pour faire mes propres recherches au laboratoire.
Voilà, donc cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Il a aussi fait une autre vidéo sur la manière dont on représente la foule au cinéma avec des images de synthèse. Bref, cette chaîne, c'est un remède à la solitude en attendant de pouvoir un jour peut-être se retrouver à nouveau serré comme des sardines. Fulloscopie, c'est sur YouTube.
Thibault Lombert, merci beaucoup, c'était très intéressant. Sophie Duplex, est-ce qu'il y a foule en ce moment à Beaubourg pour voir l'expo en cours ?
Alors, on aimerait qu'il y ait plus de foule, bien sûr.
Non, mais qu'est-ce que ça donne ? Parce qu'évidemment, on est dans une période spéciale.
Alors, on est dans une période spéciale, bien sûr, mais tous les créneaux qui sont réservés pour l'exposition Christo et Jeanne-Claude sont pleins. Donc, il y a du monde dans l'exposition. Il y a aussi beaucoup de monde pour aller voir ce film magnifique dont on parlait tout à l'heure, ce film des frères Maisels, qui est vraiment au milieu de l'exposition pour vraiment articuler les deux parties, à la fois traiter de la biographie des artistes et du projet du Pont Neuf. On comprend absolument tous les mécanismes de travail de Christo et Jeanne-Claude dans ce film. Et puis, ce film s'est fait par des documentaristes, donc à la fois, je dirais, connus et méconnus, les frères Maisels, qui ont aussi fait des films sur les Rolling Stones, les Beatles, Et
vous savez nous parler, vous.
C'est
hein.
un très très beau film, vraiment. Oui. C'est un film émouvant même. On voit cette relation entre les deux artistes. Finalement, on peut parler d'artistes également pour elle. Et on comprend la démarche. Oui.
Mais
la question
se pose. Vous avez raison. Était-elle une artiste ou alors participait-elle au projet artistique de Christo? Alors, je parle de Jeanne-Claude, évidemment.
Dans la mesure où ils estiment que, dans leur grand projet à l'échelle monumentale, l'œuvre, elle commence au début du projet, c'est-à-dire au début de la phase de négociation, et donc dure des années, eh bien, Jeanne-Claude est à part entière une artiste, parce que tout ça, c'est l'œuvre. Donc, elle est active dans toutes ces
Très
phases
active.
Du projet.
Extrêmement active. Elle l'encourage, quand il a des moments de découragement, on le voit dans le film. Elle dit, mais Christo, mais non, mais on va y arriver.
Vous faites bien. Hein.
Ah oui, une énergie absolument incroyable qui est partagée par tous les deux permet donc ces projets absolument extraordinaires.
Et puis, on va parler, bien sûr, dans quelques instants, du prochain projet qui sera donc posthume et qui concerne un petit arc en haut des Champs-Élysées. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Sophie Duplex, commissaire de l'expo en cours au Centre Beaubourg ou Georges Pompidou, c'est la même chose, à Paris jusqu'au 19 octobre, consacré à Christo, Jeanne-Claude, Paris. On arrive au projet ultime, l'Arc de Triomphe, qui sera donc compacté en septembre 2021. C'est ça. Merci Diane Chenouda, vous faites un peu mon post-it, c'est sympa. Tout était prêt?
Oui, alors pour l'Arc de Triomphe, tout était prêt. Christo avait validé déjà toutes les étapes qui consistent à déjà imaginer la protection du bâtiment avec des structures métalliques. Il avait validé le tissu et même les plis du tissu. Le tissu était fabriqué. Et puis l'essentiel des autorisations avait été obtenu,
ouais,
donc il n'y avait aucune raison de s'opposer à la tenue de l'empaquetage de l'Arc de Triomphe.
Combien de temps durera cette installation?
Alors, comme pour tous les projets de Christo et Jeanne-Claude, elle sera visible pendant 15 jours, 16 plus exactement, en incluant deux week-ends pour qu'un maximum de public puisse venir voir l'installation.
Que répondez-vous, Sophie Duplex, à ceux qui disent finalement à quoi ça sert de faire ça?
Je leur dirais à quoi sert l'art, hein. À ce moment-là, on peut se poser la question pour tout. Ça sert à magnifier cet arc, ça sert à le voir différemment, ça sert à lui rendre hommage. Et puis, par la même occasion, on rendra hommage à Christo, qui est décédé.
Diane Chenouda, rapidement, il y a des points communs entre l'Arc de Triomphe et le Pont Neuf, dont absolument. On peut voir l'empaquetage dans l'expo.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on fait appel aux mêmes aux charpentiers de Paris, à des cordistes, à des alpinistes qui vont être juchés autour de l'arc pour hisser la toile. Cette fois, c'est une toile recyclable, une toile bleu-argent, gris-argent, hein, c'est ça ?
Argent-bleuté.
Argent-bleuté, qui s'annonce quand même assez magnifique. Hein. Je pense que ça va effectivement magnifier le monument, là, pour le coup. Et comme ça l'a fait pour le Pont Neuf, même si c'est totalement transformé. Et c'est ça qui est intéressant, ça donne une autre vision, et ça en fait une sculpture. Parce que, si vous voulez, Christo se définissait comme un sculpteur, en réalité. Alors, un sculpteur très original, évidemment, et c'est ça qui est intéressant dans l'art. C'est justement qu'il était unique, vous voyez.
Et la phrase clé que vous avez donnée tout à l'heure, c'est « cacher pour mettre en valeur », c'est ça ?
Pour mieux révéler.
Pour mieux révéler, ouais. En effet, ça c'est vraiment ce qui le caractérise. Je dirais qu'il était sculpteur, mais il était peut-être tout à la fois, en fait.
Oui.
Le geste d'empaquetage, c'est être à la fois peintre, dessinateur avec les ficelles, sculpteur parce qu'on s'attaque au volume, et
photographe.
Puis architecte parce qu'on intervient dans l'espace public. Donc il était tout ça à la fois, et sa formation à Sophia, à l'École des Beaux-Arts, très académique, la nourrit en réalité, même s'il a toujours cherché à s'y opposer.
Ah oui, c'était un grand dessinateur au départ, oui, bien sûr.
Merci. Alors, ouais, encore un tout dernier mot.
Photographe, il a eu son photographe attitré, hein, Wolfgang Wolz, qui est vraiment l'homme de la situation depuis les années 70 et qui prend toutes les photographies des projets.
Qu'on voit dans l'exposition, qui sont superbes.
Et cette exposition, donc, si vous êtes à Paris ou si vous passez par Paris cet été, et même au-delà, jusqu'au 19 octobre, eh bien, vous pouvez la visiter. C'est au Centre Georges Pompidou. C'est combien ? On va donner le... C'est combien l'entrée, Sophie Duplex ? On ne sait pas. Regardez sur le site. Hein,
et vous regardez sur le site, il faut toujours regarder sur le site, voilà. On a des choses à découvrir.
Voilà, merci beaucoup d'être passé par Culture Média ce matin, merci Diane Chenouda.
C'était un plaisir.
Moi aussi, plaisir partagé, merci. Et puis voilà, allez-y, si ça vous dit.